On va aller rejoindre maintenant Pierre-Hugues Boisvenu, qui a perdu sa fille Julie, assassinée donc en juin 2002. Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, bonjour.
Bernard, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent. Et je veux adresser là, mes voeux de sympathie avec la famille, que je comprends le deuil ce matin-là.
C'est sûr, et c'est pour ça qu'on vous parle. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre, c'est vous. Où est-ce que tu trouves la force, Pierre-Hugues? Comme parent, où est-ce que tu trouves la force pour passer au travers de ce qu'ils vont devoir traverser dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années?
Comme je dis souvent, quand les caméras ne sont plus là. Parce que je me souviens quand l'enquêteur était rentré dans la cour à la maison, je demeurais à Sherbrooke à l'époque, et il s'approche avec un air de presque de croque-mort, puis qui vient vous dire, ben, on a trouvé votre fille après 10 jours. Et si j'avais pas eu un ami tout près de moi, je veux dire, pour m'y accrocher, vos deux genoux se font osciller, puis vous tombez à terre. Là. C'est les nouvelles là, qui c'est comme dans le fond un barrage qui cède et qui entraîne en vous beaucoup de questionnements, beaucoup de colère. C'est un flot là presque incontrôlable. Et notre environnement immédiat est très important. Les médias qui en parlent beaucoup nous supportent indirectement. Mmh. Mais c'est quand que les médias s'en vont, c'est quand que la famille n'est plus là, c'est quand le corps est enterré. Et c'est au premier Noël, c'est au premier repas du dimanche où la chaise qu'elle occupait, elle est vide. Ça, c'est aussi pénible, sinon plus, que vivre le deuil. Puis ça fait partie du deuil. Comment on traverse ça? Bien, on le traverse avec ceux qui nous entourent. Parce que ce ne sont pas des deuils qu'on peut vivre tout seul. C'est des deuils qu'on vit tout seul parce qu'on a une relation particulière avec notre fille. La mère a une relation particulière, les pères aussi. Mais c'est la famille immédiate, c'est les amis qui doivent nous supporter puis qui doivent nous permettre d'en parler. Et ça va durer le temps que ça dure. Hein. Moi, j'ai eu la chance, dans le fond, d'avoir une fille qui m'a accompagné là-dedans, même si elle était assassinée, puis qu'elle m'a amené ailleurs. Donc, il faut que ces parents-là se disent, le fait qu'on ait perdu notre fille, moi comme père, puis moi comme mère, je ne serai plus pareil. On vient de m'enlever quelque chose qui faisait partie de ma vie, et ça, quelqu'un vient de me le voler. Donc, c'est ça, là, qui le deuil, c'est se rebâtir.
Est-ce qu'il faut trouver un sens à ce qui s'est produit pour réussir à passer par-dessus, ou est-ce que c'est tellement insensé que c'est pas la direction que tu dois prendre, c'est une autre direction?
Tu te poses les bonnes questions, hein? Comment trouver un sens à un geste insensé?
Oui.
Oui, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que j'ai toujours dit, j'ai accompagné, tu sais, Bernard, des centaines de familles dans leur deuil depuis 18 ans. Et je leur dis toujours, il ne faut pas que le criminel qui a assassiné votre fille vous assassine aussi dans le cœur. Et c'est ce qui surveille, c'est ce qui guette beaucoup de familles, c'est que le chagrin, la peine vont avoir raison d'elles et ils vont toujours demeurer à cet événement-là, accrochés au passé, accrochés à leur douleur, certains accrochés à la haine, à la rage. Et c'est d'emmener ces gens-là à sortir de cette prison. Et cette façon de s'en sortir, c'est de briser le silence et de parler de leur fille, parler comment elle était belle, comment elle les aimait, comment, si elle était vivante aujourd'hui, où elle serait, quelle profession elle exercerait, quels petits-enfants qu'elle nous amènerait. Parce que, dans le fond, on fait le deuil de nos rêves aussi. Mmh. Et ça aussi, c'est difficile comme père puis comme mère. Donc, oui, il faut les accompagner, puis grâce à l'association des familles de personnes assassinées et disparues, qui joue un rôle aujourd'hui essentiel dans cet accompagnement-là, parce qu'il y a des organisations comme les CAVAC, des organisations comme l'IVAC, mais ce sont des fonctionnaires. L'AFPAD, ce sont des familles qui ont vécu ça.
Oui.
Donc, ces gens-là vont être capables de comprendre la blessure qu'ils ont au cœur. Et moi, je vais essayer de rentrer en contact avec cette famille-là rapidement pour leur dire, appelez, allez vers l'AFPAD, quand le corps sera enterré, quand la famille sera partie dans leur maison, dans leur village, vous allez être tout seul, mais il y a quelqu'un qui va vous permettre de sortir de ce solitude-là, et ça va être l'association.
Donc, vous êtes prêt, Pierre-Hugues, si jamais ils ont besoin de vous parler, vous êtes prêt à rencontrer les parents, c'est ce que j'entends dans vos propos, là.
Gare Bernard, je l'ai fait pour Marilyn qui est assassinée. Je suis monté au lac Saint-Jean dans une tempête de neige pour aller voir la famille parce que je trouvais important, pas parce que je suis sénateur, pas parce que je suis connu, parce que je suis père de famille qui a vécu ça à deux reprises. Je suis capable de les écouter et je suis capable de leur dire, regardez, oui, vous pouvez grandir là-dedans, comme vous pouvez rester petit là-dedans. Puis j'essaie juste de partager ma petite expérience avec elles, puis leur dire, je ne serai jamais plus loin que le téléphone. Surtout le père. Moi, j'essaie de travailler beaucoup avec le père, parce que les hommes parlent très peu, tu le sais. Mm. Les mères s'occupent des autres enfants qui restent, s'occupent de la famille, mais le père, souvent, il va être souvent dans la solitude après. Fait que s'ils veulent parler à un homme, à un autre père de famille, ben on est là, M. Surprenant, M. Carretta, on est toujours là pour leur parler.
Ah, Pierre-Hugues, je suis content que vous soyez là. Merci. Je rappelle évidemment que vous êtes sénateur, mais vous êtes beaucoup plus qu'un sénateur dans des drames comme celui-là.
Je veux surtout te dire merci à toi, Bernard, d'avoir l'occasion de le dire sur les ondes, parce que lorsque ça arrive, on voit l'association, on trouve ça beau, mais quand ça nous arrive, on dit toujours, je ne pensais jamais appeler l'association.
C'est sûr.
Oui.
Merci, Pierre-Hugues Bovigny.
Merci, Bernard, de l'avoir fait avec toi ce midi.
Salut, mon gars.
Salut.
On va aller rejoindre maintenant notre journaliste, Denis Couture, donc qui est au palais de justice de Saint-Jérôme. Denis, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Pas une affectation facile, hein?
Ah non, celle-ci, là, j'en ai fait quelques-unes des comparutions dans différents palais de justice et je dois vous dire que celle-ci était vraiment très émotive. La salle de cour était pleine, il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup de membres de la famille de la victime, des gens en pleurs. On a eu le témoignage aussi de la fille du présumé meurtrier, François Sénégal, un homme de 51 ans qui est accusé de meurtre prémédité. Sa fille dit qu'elle n'en revient pas. Cette histoire-là, elle était en pleurs, elle aussi. Bref, ça a été un moment difficile pour, je pense, tout le monde qui était là. Autant la fille du présumé meurtrier que la famille de la victime. Le présumé meurtrier, François Sénégal, reviendra en cour le 4 mars. Il pourrait faire face à d'autres accusations, nous a dit l'avocat de la Couronne. Donc, c'est à suivre. Pour l'instant, évidemment, il va demeurer incarcéré. Et puis, il s'est fait dire aussi qu'il ne doit pas communiquer avec une liste de personnes qui sont composées là, de la famille et des proches.
Denis Couture, merci. Est-ce qu'il y a autre chose à rapporter, par exemple, le comportement de Sénécal?
Je vous dirais qu'il était... Il m'avait l'air un peu perdu, en fait. Il avait des difficultés à comprendre les instructions qu'on lui donnait. Il avait la tête basse. Il semblait un peu perdu.
OK, merci beaucoup, Denis Couture, pour ce rapport donc qui nous provenait du palais de justice de Saint-Jérôme, où se trouve Denis présentement. On va s'arrêter. Au retour, on va passer à une autre histoire qui fait l'actualité. Premier cas probable de coronavirus détecté ici au Québec. Quelle est la suite des choses? Quel est le système qui est mis en place chez nous pour essayer de prévenir la propagation du coronavirus au Québec dans un instant?